France Culture.
Question d'islam par Ghalib Benchir. Bonjour, aujourd'hui nous parlons encore une fois, mais c'est nécessaire, des frères musulmans, mais tout particulièrement du point de vue d'un grand État occidental qui a interagi avec ses frères musulmans sur quasiment un siècle. Je parle des États-Unis de Trump, mais depuis en gros le milieu des années 40 du siècle écoulé. Et pour évoquer ce sujet, j'ai grand plaisir d'accueillir Mohamed Ali Adraoui. Mohamed Ali Adraoui, bonjour.
Bonjour Ghalib.
Vous êtes un fin connaisseur de la doctrine, de l'idéologie, de l'histoire des frères musulmans. Vous êtes professeur des universités à Sorbonne Université. Vous êtes politiste, vous êtes historien, essayiste, auteur de nombreux ouvrages. Et votre livre « Les États-Unis et les frères musulmans, un siècle d'histoire » tombe à propos, notamment lorsque l'administration Trump s'apprête à inscrire les frères musulmans sur la liste des mouvements terroristes. J'ai cru comprendre qu'en France, il y a une proposition de loi pour faire agir de même concernant cette inscription à propos des frères musulmans sur le territoire national français. Mais c'est bon aussi de connaître ce dont il s'agit et des relations, cette fois-ci, j'ai parlé des relations entre les États-Unis d'un côté et le mouvement des frères musulmans de l'autre. Alors pourquoi à partir des années, du milieu des années 40 du siècle écoulé? Parce que on n'a pas de traces. Vous-même qui avez fait des recherches, vous n'avez pas trouvé ni de notes, ni de câbles, ni de quoi que ce soit concernant les liens entre les frères musulmans et les États-Unis avant 1944.
Oui, c'est une histoire relativement peu étudiée, Ghalib, et qui pourtant, et ce sera, je pense, une première chose à dire, fait l'objet d'une certaine fascination, parfois même très malsaine, puisque tout d'abord, j'aimerais dire la chose suivante. C'est que quand on souhaite ou quand on se propose d'étudier cette histoire maintenant qui est vieille de près d'un siècle, il faut tout d'abord évacuer deux choses. La première chose, c'est une vision conspirationniste des relations entre les États-Unis d'une part et les frères musulmans, essentiellement égyptiens. J'ai essentiellement étudié la branche égyptienne qui est la branche mère, comme chacun le sait. C'est le pays qui a vu naître dans l'entre-deux-guerres, en décembre 1927, les Al-Ikhwan al-Muslimin, les frères musulmans.
Et c'est à juste raison que vous soulignez 1927, parce qu'il y a eu une erreur fondamentale. On parle de 1928, c'est parce qu'on a mal fait la correspondance entre le calendrier égyrien et le calendrier de l'ère commune.
Grégorien, en un sens.
Grégorien.
Vous avez absolument raison. Donc, si on aime être rajeuni, malheureusement pour les frères musulmans, ça les vieillit d'une année supplémentaire. Et ce qui veut dire bon an, mal an, Ghalib, c'est une chose qui mérite d'être précisée, c'est qu'on est prêt de célébrer ou de commémorer, si vous me passez l'expression, un siècle d'existence maintenant du mouvement des frères musulmans dans maintenant à peu près un peu moins de deux ans. Donc, il faut d'abord mettre de côté une vision conspirationniste des choses, les États-Unis d'Amérique qui, au XXe siècle, apprennent progressivement un rôle de grande puissance, notamment à la faveur de la défaite de l'Allemagne nazie à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et en raison du commencement de la guerre froide, deux grands événements qui se succèdent et dans le cadre desquels les États-Unis deviennent la grande puissance mondiale. On parle d'ailleurs du siècle américain pour citer Fernand Braudel ce matin.
Comme on parlait du siècle de Périclès en 100 ans, mais là on parle du siècle américain.
On a parlé de la Pax Britannica au 19e siècle, d'un siècle victorien et on pourrait bien évidemment additionner les exemples dans l'attente éventuellement de ce ce que certains aujourd'hui commencent déjà à appeler une Pax Sinica et un siècle chinois et sino-centré. Donc cette vision conspirationniste n'est pas corroborée par les études un peu sérieuses. Il n'y a pas une vision privilégiée. Les États-Unis ont d'emblée décidé de jouer la carte de l'islamisme et des frères musulmans en Égypte et ailleurs dans le monde arabe de manière à défendre leurs intérêts. Non, au contraire. Les archives et un certain nombre de travaux d'investigations historiques sérieuses permettent d'emblée d'évacuer, cette thèse ou cette théorie ou cette hypothèse. D'autre part, il faut évacuer également, je dirais, l'hypothèse contraire qui est celle d'un clash constant. Radical, extrême, ontologique entre les États-Unis d'une part, Washington, et Al-Ikhwan, les frères musulmans d'autre part. Ils se seraient toujours détestés. Leur relation, elle est faite au mieux d'une forme, j'allais dire, de détestation froide, au pire d'un désir de guerre ou de conflit civilisationnel assumé depuis maintenant près d'un siècle. En réalité, non. En réalité, cette relation, elle est passée par plusieurs phases. Elle a évolué à partir d'un certain nombre, j'allais dire, d'événements sans lesquels on ne peut pas comprendre comment la manière et la politique à partir de laquelle ou dans le cadre desquels les États-Unis ont essayé de traiter avec les frères musulmans, qu'ils ont pu voir tantôt comme un mouvement effectivement très dur, très radical, symbole d'un islam révolutionnaire à ambition révolutionnaire globale, unifier les musulmans. Je rappelle qu'on pourra, si vous le souhaitez, revenir sur la doctrine initiale et originelle des frères musulmans.
Oui, à travers quelques citations de leur fondateur.
Oui, j'en ai une premier. Si vous voulez. Hassan al-Banna, donc un instituteur qui naît en 1906 et qui, très jeune, se signale par des velléités de rétablir l'islam dans ce qu'il appelle ses droits. Et donc, de ce point de vue-là, il est devenu l'une des personnes les plus influentes au XXe siècle. De l'histoire du monde musulman en particulier et de l'histoire du monde en général. Donc, il a une petite vingtaine d'années lorsqu'il fonde la confrérie, puisqu'il s'agit d'une confrérie, qui d'ailleurs, au passage, tout d'abord, ne devient pas ipso facto un mouvement politique. Ce sera un peu plus tard, ça prendra plusieurs années. Et voilà l'une des choses qu'il écrit donc à cette époque, dans l'entre-deux-guerres. Je rappelle que l'Égypte est officiellement indépendante depuis 1922, mais c'est une indépendance de façade. Hein. L'Europe est toujours la principale maîtresse du monde, même si c'est sur le point de s'achever, et je faisais référence à l'instant à la Seconde Guerre mondiale. Voilà ce qu'il écrivait donc pour décrire et caractériser et condamner la domination européenne et plus particulièrement britannique sur l'Égypte et les pays musulmans à l'époque.
Parlant d'invasion.
D'invasion, je cite, et vous avez raison de parler de ce terme, je cite. C'est lui qui parle. « Cette invasion a eu sur nous le plus grand des effets, au point que l'ombre de la pensée islamique a déserté la vie sociale égyptienne dans de nombreux domaines essentiels. Nous avons commencé à modifier nos dispositions et à les colorer selon la mode européenne. Dans nos vies, nous avons limité l'autorité de l'islam à nos seuls cœurs et aux tribunes du sermon du vendredi. Nous l'avons séparé des affaires concernant notre vie pratique. » Nous nous en sommes énormément éloignés et nous voilà menant une vie double, instable et contradictoire. Ici, il y a mine de rien un certain nombre de concepts clés, de dispositions mentales et doctrinales clés qu'on va retrouver dans le programme des frères musulmans. Il y a l'idée d'une autorité de l'islam.
D'une part et d'autre part, le fait que l'islam, selon sa compréhension, la compréhension de Hassan al-Banna, doit être un système total, si ce n'est totalitaire, en tout cas totalisant.
Totalitaire, ça, je me garderai bien de ranger dans quand c'était pas là. Les frères musulmans sont à l'origine d'une historiographie extrêmement riche. Et vous avez autant d'auteurs qui aujourd'hui vous les rangeront dans la catégorie des mouvements fascistes, totalitaires, extrêmement durs et révolutionnaires, y compris par la violence, comme certains aujourd'hui les rangeraient dans la catégorie ou dans la famille des mouvements religieux et démocrates qui ont initié avec leur pensée et leur pratique du politique une forme de tentative de démocratiser les sociétés musulmanes à travers un référentiel musulman aussi intégraliste, comme vous le disiez, soit-il. Donc Hassan al-Banna, il fait partie, parce qu'il fait aussi également partie d'un point de vue idéologique et doctrinal d'un mouvement plus large, hein, celui de la renaissance des sociétés musulmanes depuis la fin du 19e. Il s'inscrit à la fois dans une forme de continuité mais également de rupture par rapport aux grandes figures qu'ont été des gens comme Jemaldine Avrani, Mohamed Abdou, Rachid Reda et d'autres. Donc vous avez l'idée d'une autorité de l'islam. L'islam, c'est pas seulement, comme il le dit, quelque chose qui nous pousse, de son point de vue, qui pousse comment dirais-je, un certain nombre de personnes de confession musulmane à aller prier le vendredi et à entendre un sermon durant quelques instants avant de revenir à une vie, entre guillemets, plus séculière. Il y a l'idée d'une absence de confusion. L'islam, c'est à la fois quelque chose, c'est pour ça qu'il parle de vie double, hein, c'est quand même une phrase ou une notion très forte, cette vie double est à l'origine de la décadence des sociétés d'islam. Il faut revenir à une forme de revivalisme, faire revivre, ressusciter, restituer, restaurer un islam qui est censé avoir été perdu, délaissé, du fait notamment de la colonisation européenne, qui n'est pas uniquement que politique et militaire et diplomatique, elle est peut-être d'abord et avant tout cognitive, morale, identitaire et symbolique. Et donc les Frères musulmans, c'est le mouvement qu'il va mettre en place dans le but d'offrir cette solution islamique. Le grand slogan des Frères musulmans, c'est « Al-Islam ou Al-Hal », l'islam est la solution, pour sortir de l'état de déliquescence civilisationnelle dans lequel l'Égypte et les pays d'islam sont à cette époque, selon lui.
Il y a aussi cette idée, nous poursuivrons ensemble par la suite les relations entre les États-Unis et les Frères musulmans, tout particulièrement dans les missions, mais presque une approche complotiste des choses, puisque Hassan al-Banna parle aussi d'un complot ourdi contre l'islam et les musulmans.
Il y a dans certains de ses écrits, sachant que Hassan al-Banna, si vous me permettez pardon, cette note de bas de page, a écrit des choses, mais il a été plus un activiste, un adepte de la harakiya, d'une vision activiste, militante de l'identité musulmane, qu'il n'a été un théoricien. Même s'il a laissé un certain nombre de discours et de textes sur lesquels aujourd'hui on travaille en tant qu'historien spécialiste de ces questions. Il est effectivement, comme vous le disiez Raleb, quelqu'un qui cible de manière extrêmement claire ce qu'il estime être des tentatives de pervertir l'identité musulmane. Et il cite par exemple un certain nombre de mouvements, de doctrines. Il parle des nationalistes, il parle des marxistes, il parle des modernistes. J'ai une citation que je pourrais vous proposer si vous êtes d'accord,
oui,
encore
je
une
vous
fois,
en prie. Oui.
Je cite, et c'est une des citations qui permet, bon an, mal an, de peaufiner, de parfaire la définition qu'on a de l'islamisme et de l'islam politique. Je cite, c'est toujours lui qui parle, qui écrit « Le plus grand des complots, vous parliez de complots, le plus grand des complots qui a d'abord pris d'assaut le cœur et les esprits des musulmans, avant qu'ils ne colonisassent leur terre et leur patrie, fut cette influence du racisme, du nationalisme populaire sectaire et de cette haute considération de chaque nation pour sa race. » Les musulmans en ont oublié l'enseignement de l'islam qui avait mis un terme au racisme de l'ignorance et à cette fierté de la race, de la couleur et de l'origine. Que veut-il dire par là? Il veut dire que l'islam, c'est une nationalité. Bien évidemment, il n'est ni stupide, il ne manque pas de culture, il sait dans quel monde il vit. Mais l'arabité, la sinité, l'indianité, l'africanité sont des caractéristiques largement secondaires, au sens propre et au sens figuré. Seul l'islam peut être le moteur d'une forme de mobilisation politique et religieuse. C'est pour ça qu'on parle d'islam politique.
Ou du moins, comme certains le disent maintenant, l'appartenance à la Oumma, cette matrie, contrairement à la patrie qui est liée à la terre, celle-ci transcende les clivages topographiques et géographiques. Cette appartenance-là fait aussi de facto, donne une citoyenneté supranationale.
Exactement. C'est pour ça qu'il est panislamiste. Dans la mesure où, faisons une comparaison qui, je pense, fera sens, je l'espère, auprès de vos auditeurs, il est normal pour nous Français d'avoir des frontières, de voter, enfin bien évidemment je ne parle pas de l'abstention, mais d'être partie prenante d'un système politique. La France est à la fois un État, une nation, une société, un peuple, nous avons une capitale, nous avons un régime politique, nous avons une constitution,
nous avons un drapeau,
nous avons une armée, nous avons des gens qui sont censés se battre pour leurs concitoyens si la France devait d'aventure entrer en guerre, et je pourrais, si vous me passez cette expression, additionner au fur et à mesure les attributs de souveraineté, comme on dirait aujourd'hui. Eh bien, vous remplacez français par musulman. L'islam, du point de vue de Hassan al-Banna et des premiers islamistes, a des frontières. Il y a un monde de l'islam, un monde territorial, il y a un territoire de l'islam. L'islam, en tant que, comme je le disais, que matrice politique, doit avoir des frontières, doit avoir ou se reconnaître dans une forme de souveraineté étatique. Et là, j'introduis le terme de souveraineté califale, puisque l'État, entre guillemets, naturel des musulmans, pour Hassan al-Banna, ce n'est pas l'État-nation moderne. Le Maroc, en tant que tel, l'Indonésie, la Turquie, l'Égypte, et je pourrais encore une fois additionner les exemples, n'ont pas tant de légitimité que cela à être des États réunissant et gouvernant des musulmans, puisqu'ils ont déjà, entre guillemets, du point de vue des frères musulmans, à tout le moins des frères musulmans originels, leur état naturel qui est celui du califat, qui est le système qui a succédé au temps du prophète Mohammed après son décès.
C'est d'autant plus dans son esprit nécessaire que l'abolition du califat a été perçue par lui et par d'autres comme un traumatisme terrible, au même moment où d'autres s'en félicitaient et regrettaient que ce fût aussi tardif.
Exactement, exactement. C'est pour ça que, comme il faut ne jamais cesser de le répéter, l'expérience des frères musulmans n'a pas vocation à être étudiée de manière, bien évidemment, univoque, mais sans la relier aux expériences politiques et religieuses de l'époque. Les années 20, ce sont des années d'effervescence autour de la notion d'islamité et de califat. On connaît les grands congrès qui ont, dont on a déjà parlé, je pense, dans cette émission il n'y a pas si longtemps, à l'issue, comme vous y faisiez référence, à l'issue du démantèlement du califat par Atatürk en 1923 et de l'avènement de la République moderne de Turquie, un certain nombre de musulmans se retrouvent dans une situation qui, pour employer un terme sociologique, pourrait être comparée à une forme d'anomie. Qui sommes-nous ? Vous savez, ce fameux tableau. Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Eh bien, vous avez un certain nombre de solutions qui vont être proposées au peuple d'islam de l'époque, et certains vont interpeller ces peuples sous le registre ou sur le registre de l'arabité. C'est pour ça que, dans cette citation, Hassan al-Banna parle de racisme. Pour lui, l'arabité, ce n'est pas un motif de mobilisation politique. Non pas qu'il soit anti-arabe. Il est lui-même de langue arabe et de culture arabe, mais ça ne fait pas sens en termes de mobilisation politique. Certains vont interpeller ces peuples sur le registre du marxisme ou du communisme ou du socialisme, d'autres sur celui du libéralisme ou du constitutionnalisme. Je rappelle que l'un des grands mouvements politiques de l'époque qui se met en place dans les années 20, c'est le grand parti Waft, le grand parti de la Constitution. Eh bien, lui, il décrète ces interpellations, comme je le disais, comme caduques. Elles n'ont pas lieu d'être, puisque seule l'islamité a vocation à être le facteur et le moteur de la mobilisation et du renouveau civilisationnel qu'il appelle de ses voeux.
Bien. Alors, pour revenir aux relations entre les États-Unis et les frères musulmans, en gros, un peu plus que sorte de 15-16 ans, 17 ans plus tard, j'ai lu dans un de vos articles, une de vos contributions, qu'il y a une relation chaotique entre une sorte de défiance mutuelle et des intérêts communs partagés.
C'est un peu ça, c'est-à-dire que le terme que j'utilise et qui, à mon avis, fait le plus sens, c'est un phénomène d'oscillation entre une vision assez rétive à considérer les frères musulmans comme des acteurs ou des interlocuteurs légitimes, puisqu'ils sont trop religieux pour un pays un État qui se veut libéral, démocratique et laïque, ou du moins sécularisé, par rapport aux défenseurs d'une idéologie fondamentaliste religieuse. Mais également, vous avez des périodes, et je pourrais en citer quelques-unes, où les États-Unis ont vu d'un bon œil une éventuelle coopération avec les frères musulmans. On peut parler, par exemple, du début des années 50, lorsque se met en place la guerre froide, sachant que les années 40 sont des années où, pour la première fois, les Américains, à travers notamment leurs représentants diplomatiques établis au Caire, nouent des liens avec les frères musulmans.
La fameuse note du 29 avril 1944, qui est la première référencée.
Et voilà, dans les archives, et qui d'ailleurs au passage contient une erreur assez gigantesque.
Sur leur naissance, parce
exactement.
Qu'il y a une erreur de 10 ans.
Exactement, pour eux, alors qu'on, comme on le disait à l'instant, les frères musulmans naissent et voient le jour en 1927, pour les États-Unis, pour les diplomates, les chargés d'affaires qui rédigent ces notes, les frères musulmans sont nés à la fin des années 30. Ce qui en soi est... Voilà, c'est ça. Donc plus de 10 ans après leur naissance réelle. Quand je disais par exemple il n'y a pas véritablement lieu de mettre en lumière le fait qu'il y aurait eu une forme de connivence voulue, intentionnelle dès le départ, vous avez là un exemple assez frappant. De la même manière que cette note-là, à laquelle vous faites référence, et je vous remercie de la citer, elle découle, comment dirais-je, d'une sollicitation, d'une lettre écrite par les dirigeants des frères musulmans aux diplomates américains de l'époque. Pourquoi ? L'Amérique, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses. On parle d'une Amérique impérialiste, colonialiste, qui veut dominer le monde. Des choses d'ailleurs qui, par ailleurs, dépassent largement aujourd'hui les discours des frères musulmans dans le monde arabe et non-arabe. Eh bien, les dirigeants des frères musulmans ont adressé une missive, une lettre aux diplomates américains, leur demandant de condamner deux pays, la Grande-Bretagne et la France, pour leurs agissements coloniaux dans les pays musulmans, notamment la France en Algérie, la Grande-Bretagne en Égypte. Et les États-Unis sont vus comme un pays relativement conciliant. Et c'est intéressant de noter cela. Cette lettre, et je termine là-dessus, a été envoyée en arabe, et personne à l'époque ne parlait arabe au sein de l'ambassade américaine. Et c'est pour ça qu'il a fallu pour la première fois recruter, en fait, la première personne arabisante et arabophone recrutée par l'ambassade américaine au Caire, et a été recrutée grâce aux frères musulmans.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui, particulièrement avec le politiste et historien Mohamed Ali Hadraoui, nous parlons des relations particulières entre l'Amérique états-unienne, l'Amérique actuellement de Trump, mais au moins depuis le milieu des années 40 du siècle écoulé jusqu'à maintenant, avec la confrérie des frères musulmans. Mohamed Ali Hadraoui est professeur des universités, à Sorbonne Université, et surtout auteur d'un ouvrage qui tombe à propos. C'est celui des États-Unis et les frères musulmans, un siècle d'histoire. Néanmoins, c'est moi qui ajoute le néanmoins, Mohamed Ali Hadraoui, les premières approches ou les premières visions, telles que ce que j'ai compris, c'est qu'on voyait les frères musulmans comme un mouvement ou une confrérie ou une association qui a des principes plutôt un peu dur, un peu drastique, confinant au fanatisme, et puis ils ne cherchent qu'à appliquer la loi coranique en quelque sorte, pour gouverner d'abord l'Égypte, et puis on verra par la suite, et tout ce qui n'est pas islamique est à proscrire, voire à exécrer.
C'est exactement ce que dit la note de 44. C'est un mouvement qui est, de prime abord, perçu comme tout d'abord étant potentiellement violent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que dans les années 30 et 40, la violence fait partie de la grammaire d'action d'un grand nombre de partis politiques. D'ailleurs, ce n'est pas seulement vrai dans le reste du monde, c'est d'abord et avant tout vrai en Europe. Les années 30, arriver au pouvoir en mobilisant la ressource violente, ce n'est pas quelque chose de rare. Ensuite, sur un plan doctrinal, ce qui interpelle les diplomates américains à l'époque basés au Caire, au sujet des frères musulmans, Ikhwan al-Muslimin, c'était, comme vous le disiez, le fait qu'ils professent des thèses très largement très dures, très intégralistes, très radical, et que ce mouvement, à part la défense de l'islam, n'est intéressé par rien d'autre. Donc ça, si on voulait historiciser, si vous me passez cette expression, les différentes étapes par lesquelles les États-Unis sont passés lorsqu'il était question de nourrir une vision par rapport aux frères musulmans, on peut ici identifier une première étape. Il y en a d'autres. Quand je disais que les événements historiques, l'historiographie de manière générale, sont clés pour comprendre la manière dont les Américains ont interagi et des raisons pour lesquelles ils ont interagi avec les frères musulmans, vous avez, quelques années plus tard, vous me faisiez l'amitié de citer mes travaux, en 1952, on a un mémorandum qui est extrêmement important, qui constitue à mes yeux un moment clé de la relation américaine avec les frères musulmans. 1952, on est après le mois de juillet. Le mois de juillet est important dans l'année 52 dans l'histoire de l'Égypte, puisque la monarchie n'est plus. Il y a eu un coup d'État, le coup d'État des officiers libres, autour de grandes figures de l'histoire contemporaine de l'Égypte. Il faut parler du colonel Naguib, du colonel Gamal Abdel Nasser, qui, quelques années plus tard ou quelques temps après, damera le pion à Naguib et deviendra le véritable chef de la République arabe d'Égypte. Eh bien, les frères musulmans, en 1952, il faut le comprendre, sont régulièrement invités à faire le point, comme on dirait aujourd'hui, avec les diplomates américains.
Oui, on s'accommodera du coup d'État de Nasser parce qu'on pressentait que Naguib était un peu enclin, en tout cas, à flirter, si j'ose dire, avec Moscou. Oui. Et puis, serait aussi sous emprise des frères musulmans. Il y a cette fameuse note, cette fois-ci, du 23 décembre, parce que c'est bien de donner les références historiques, 1952, d'un certain Robert McClintock.
Oui, exactement. Le nom est intéressant, puisque c'est une grande famille de diplomates dont les héritiers sont encore aujourd'hui extrêmement influents dans la politique américaine en général et à destination du Moyen-Orient en particulier.
Et qui ont marginalisé, en gros, le département d'État, puisque, peut-être pas tout le temps, mais qui travaille directement sur les questions du Moyen-Orient,
exactement,
dans l'administration,
exactement,
les différentes administrations.
Exactement, c'est une grande famille des élites américaines. On pourrait également faire la sociologie des gens qui ont interagi avec les islamistes au cours des décennies, ça ce serait aussi passionnant de le faire. Et cette note, ce mémorandum plutôt de décembre 52, eh bien, il ne mentionne plus les frères musulmans comme des fanatiques ou des gens potentiellement fanatiques, ils sont cette fois-ci conservateurs et orthodoxes. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, dans le mémorandum, on se rend compte qu'ils ont été interrogés sur un certain nombre de choses dans lesquelles ils croient, et que vous avez par exemple, tiens, c'est la guerre froide, et c'est, après tout, l'opposition entre le capitalisme et le communisme, on leur demande ce qu'ils pensent de la propriété privée. Vous comprenez que l'historiographie de ce point de vue-là est très intéressante à étudier, puisque les frères musulmans, en raison de leurs réponses, sont vus, selon les époques, eh bien, comme des partenaires potentiels, et parmi les dirigeants. les noms de dirigeants ou de personnes influentes au sommet des frères musulmans qui figurent comme étant mentionnés dans ce mémorandum, on a un certain nombre de personnes, comme Saïd Ramadan. Saïd Ramadan, qui est le père d'un certain nombre de penseurs et d'intellectuels qu'on connaît bien en Europe depuis plusieurs années. Je pense par exemple aux frères Tariq et Hani Ramadan. Donc l'histoire des frères musulmans n'est pas...
Qui a été reçue à la Maison Blanche.
Exactement, qui avait été invité, délégation. Voilà, en 1953. Et tout le monde, je pense, ou du moins un certain nombre de personnes connaissent cette photo extrêmement célèbre dans le bureau ovale où le président Dwight Eisenhower reçoit un certain nombre de dignitaires religieux, pas seulement d'ailleurs musulmans, et parmi les dignitaires musulmans, les représentants musulmans qu'il reçoit, il y a Saïd Ramadan. Donc cette histoire des frères musulmans, elle aurait pu, si vous me passez cette expression, rester cantonnée à l'histoire du monde arabe, à commencer par l'histoire de l'Égypte, mais la grande géopolitique est venue à la rencontre de ce mouvement, et inversement, ce qui a permis eh bien, un certain nombre de nouvelles configurations en vertu desquelles les frères musulmans vont nouer, et les Américains bien évidemment dans cette équation, des relations, les deux ensemble, afin, eh bien, selon les époques, de s'opposer, selon d'autres époques, notamment à l'époque de la guerre froide, durant les années 50, 60, 70, au moment de la guerre froide, être vu comme un mouvement qui pourrait participer à faire opposition aux mouvements communistes qui sont à cette époque-là les plus influents dans le monde.
Et c'est pour ça qu'il, le mot est devenu galvaudé maintenant, qu'il deal en quelque sorte avec le successeur de Hassan al-Banna après son assassinat, Mahmoud Makhlouf par exemple. Houdaibi, puis Mahmoud Makhlouf, le juge. Et par la suite, il y a le fait, cette fois-ci, d'une sorte de réal politique.
Oui.
Qui caractérise les relations.
Il y a, en fait, oui, vous avez raison. J'ajouterais simplement une chose, c'est que les schémas cognitifs, les visions intellectuelles interagissent et jouent un rôle important dans la manière de définir et de percevoir et de, je veux dire, de juger et de jauger, sans mauvais jeu de mots, la doctrine et l'action des frères musulmans. Grosso modo, si on voulait schématiser, vous avez deux grandes visions qui s'affrontent depuis un siècle. Alors, il faudrait bien évidemment entrer dans le détail, et c'est le rôle des historiens et des politistes que de proposer des choses aux lecteurs. Vous avez cette vision très claire des frères musulmans qui, ils sont d'abord et avant tout, comme je le dirais, un acteur d'abord et avant tout religieux. La politique est relativement secondaire, ou plutôt la politique est seconde, au sens où elle est assujettie à une vision religieuse radicale qui n'a jamais véritablement évolué, et y compris jusqu'aux années les plus récentes. Lorsqu'il est question d'expliquer le coup d'État contre les frères musulmans au début de l'été 2013, c'est parce que les frères musulmans n'ont pas été inclusifs, ils ont été trop radicaux, ils n'ont pas suffisamment pris en compte la diversité et les aspirations du peuple égyptien. Et cela, et je cite encore une fois des discours, des interviews, des rapports de l'époque, ne peut s'expliquer que par leur rigidité, leur rigorisme et, comme vous le disiez il y a quelques instants, leur appétence à défendre l'islam urbi et orbi, sans mauvais jeu de mots, l'islam, tout l'islam, rien que l'islam. Un islam essentialisé, intégral et intégraliste. Et vous avez une deuxième, comment dire, approche qui voit les frères musulmans davantage comme d'abord et avant tout un mouvement social, un mouvement historique, un mouvement pluriel, une matrice plus qu'un mouvement organisé d'ailleurs au passage. Il y a au sein de ce mouvement des évolutions, des contradictions, et parmi les contradictions et les évolutions qui peuvent être observées depuis plusieurs décennies, il y a celle d'une éventuelle modération, voire d'une démocratisation. C'est par exemple l'approche qui a été privilégiée par l'administration Obama et par un certain nombre de diplomates et de responsables américains, avant même d'ailleurs au passage le début des printemps arabes. Les années 2000 sont des années extrêmement riches. Je rappelle que là, il faut encore une fois historiciser, on est dans l'après-11 septembre 2001.
Oui, mais peut-être, oui. Vous faites bien d'y aller comme ça. Un mot sur comment ont-ils perçu les excès ou les outrances d'un Sayyid Qutb ? Avait-il accepté son exécution ou pas ? Les acteurs américains.
Alors c'est intéressant parce que Qutb, c'est le plus américain des frères en un sens.
Oui, en réalité, il y a vécu aussi.
Il faut me pardonner cette expression, mais factuellement, c'est vrai. Sayyid Qutb, c'est quelqu'un qui naît la même année que Hassan al-Banna. Il naît en 1906, il aura une vie un peu plus longue, mais il a un point commun avec Hassan al-Banna, c'est que tous les deux ne mourront pas, malheureusement pour eux, de mort naturelle. Hassan al-Banna est assassiné en février 1949 dans le cadre d'un assassinat sur lequel encore aujourd'hui on travaille et qui déclenche un certain nombre encore aujourd'hui de passions. On sait à peu près aujourd'hui comment ça s'est passé. Il a été tué par des agents de la monarchie égyptienne, certainement en lien avec un certain nombre de pays ou de pouvoirs coloniaux, à commencer par les Britanniques. Qutb, c'est différent. Qutb incarne deux choses, à mes yeux. Là où Hassan al-Banna se pose la question « que s'est-il passé ?» pour reprendre le titre d'un livre d'un grand historien de l'islam du nom de Bernard Lewis, sachant que les deux n'ont rien à voir. Hein. Bernard Lewis et Hassan al-Banna, bien évidemment, il ne faut absolument pas mélanger les deux. Qutb, lui, se pose une deuxième question. Que s'est-il passé pour nous musulmans ? C'est Qutb qui parle en ce sens. Et il dit également, mais les Égyptiens et les musulmans de manière générale se sont certes débarrassés de l'influence coloniale britannique, mais de quoi ont-ils hérité après ? Ils ont un deuxième problème auquel ils doivent faire face, un deuxième défi, qui est qu'une forme de colonisation, cette fois-ci domestique et intérieure, aurait succédé à la colonisation officielle, celle sur laquelle il était très facile de se mettre d'accord, à savoir celle qui venait de l'Europe. C'est à propos de laquelle j'ai fait une citation il y a quelques instants. Eh bien, vous pouvez de ce point de vue-là assez facilement conclure que l'hostilité avec le pouvoir en place, notamment celui des militaires et des nationalistes arabes emmenés par Nasser après 1952, cette opposition, en un sens, était écrite. Sachant que les frères musulmans qui avaient en 1952 soutenu le coup d'État vont assez rapidement avec les nationalistes arabes s'opposer. Qutb est la principale figure qui va emmener, représenter cette opposition des frères, de frères radicalisés par le nassérisme en un sens. Et il va s'opposer à Nasser, est-ce que ça lui vaudra d'être pendu en août 1966, non sans avoir auparavant écrit un certain nombre ou commis un certain nombre d'ouvrages, comme le plus, certainement le plus célèbre étant celui que l'on traduit en français, dont l'on traduit le titre par « Signe de piste » ou « Jalons sur la route »,« Ma'alim fi tariq », donc « Jalons sur la route » de quoi ? Sur la route du renouveau islamique, sur laquelle les frères musulmans doivent maintenant rencontrer un certain nombre d'ennemis, intérieurs et non plus extérieurs. Et
puis l'autre ouvrage, « À l'ombre du Coran »,«
Fi dhilal al-Qur'an », qui est un essai exégétique du Coran. Sachant de manière générale que les frères musulmans ne sont pas un courant théologique en tant que tel. Hein. C'est d'abord et avant tout un courant politique et social activiste, et il serait faux, par exemple, de comparer, ne serait-ce que sur ce plan-là, hein, sur d'autres dimensions, on pourrait éventuellement nourrir le débat, mais il ne faudrait pas, par exemple, comparer les frères musulmans au wahhabisme ou au salafisme, sur ce plan-là. Il n'y a pas de création, de construction théologique ou doctrinale, religieuse pure, faite par les frères musulmans, historiquement.
Je vous ai interrompu, mais j'ai la faiblesse de croire que j'ai bien fait parce que vous nous avez parlé davantage de cet épisode de Seyyed Qutb, un des idéologues les plus rigoristes, en tout cas des frères musulmans. Et donc vous nous parliez à la fois de la guerre froide et du fait que les dirigeants et même les théoriciens américains voyaient en eux une sorte d'allié objectif, fût-ce momentané, pour contrecarrer, dirimer même les thèses communistes de l'Union soviétique.
Oui, on le voit dans les années 70, lorsque les diplomates américains voient d'un bon œil la libération de différentes cohortes de frères musulmans qui ont été emprisonnés, justement, à la suite de l'émergence d'un courant qutbiste au sein des frères musulmans, beaucoup plus radical. Eh bien, dans les années 70, un certain nombre d'entre eux sont libérés, et dans le cadre d'une forme, non pas de reconnaissance au sein de la société égyptienne, mais d'une forme de tolérance approuvée et voulue par les autorités égyptiennes, on appelait ça à l'époque l'infiter, la libéralisation de la société, notamment sur un plan économique, de la société égyptienne. Eh bien, cette libéralisation a eu une dimension sociale, culturelle, dont ont profité les frères musulmans. D'ailleurs, un certain nombre des personnes, des leaders des frères musulmans qui arriveront au pouvoir dans les années 2010, avec les printemps arabes, sont issus de cette, comment dirais-je, volonté de libérer les frères musulmans et de les installer, non pas au cœur du système, mais de leur accorder une certaine place au sein du système égyptien à partir des années 70. Les années 70 et les années 80 sont des années où ils ont davantage pignon sur rue, leur influence sociale et culturelle se voit au niveau des syndicats, notamment des syndicats de médecins au Caire et dans les grandes villes égyptiennes, à l'université, sur les campus, donc ils participent d'une forme eh bien, de recrudescence, d'un revivalisme religieux, une forme de retour des normes religieuses dans l'espace public égyptien depuis cette époque.
Est-ce par calcul ou est-ce par... Je ne pense pas qu'il y ait une quelconque adhésion, mais sous Sadat, ils avaient effectivement pignon sur rue. Comment les choses vont-elles être après sous Moubarak ?
Sous Moubarak, la grande évolution, si vous me passez cette expression, c'est le fait qu'un, non pas tous les frères musulmans, mais une partie plus centriste des frères musulmans, vont franchir le pas de la participation politique. Dans les années 90 et au début des années 2000, on a des cas évidents à la fois d'entrée dans le jeu politique institutionnel, un grand parti, un grand mouvement politique qui s'appelle Al-Wasat, le parti du centre, a eu de véritables succès électoraux dans les élections législatives. Alors, des élections très contrôlées, puisque jamais l'Égypte n'a été, à cette époque-là, l'Égypte ne peut pas être considérée comme une démocratie ouverte. La seule tentative est bien de créer ou d'opérer une forme de transition politique du régime autoritaire vers un système plus démocratique. Ça a été le printemps égyptien des années 2011, 2012, 2013.
C'est là où Jean Kirkpatrick a dit, il y a une phrase, c'est le monde arabe qui est la seule partie du monde où j'ai été secoué dans mes convictions.
C'est pas elle qui dit ça, elle cite le président George Bush Jr. qui, lors de ses...
Donc, c'est pas sa propre phrase à elle.
Non, elle cite le président américain George Bush Jr. qui, il faut comprendre le contexte, on est dans l'après 11 septembre 2001, et l'une des grandes questions, si ce n'est la grande question qui se pose pour l'administration Bush Jr. de l'époque, c'est comment faire pour contrer ce qu'on appelle la terreur globale. On se rappellera tous de l'expression « le Global War on Terror », dont les djihadistes sont l'incarnation la plus grande. Eh bien, les frères musulmans sont perçus à travers ce prisme à cette époque-là. Les frères musulmans sont-ils, d'une part, un facilitateur de djihadisme et de terreur, ou sont-ils un rempart, un pare-feu, face à cette terreur djihadiste telle qu'elle est vue et telle qu'elle est combattue par les Américains à l'époque? Eh bien, lorsqu'on explique au président George Bush Jr. que les frères musulmans peuvent être, encore on retrouve cette dualité dans la vision américaine, peuvent être vus comme un mouvement légaliste, un islamisme de gouvernement, comme on pourrait dire aujourd'hui, qui pourrait justement drainer, canaliser les frustrations sociales, populaires, notamment des plus jeunes générations dans un pays comme l'Égypte, mais également, faut pas oublier que les frères musulmans, c'est un mouvement qui a essaimé depuis très longtemps dans différents pays à la fois majoritairement musulmans, la Tunisie, la Jordanie, la Palestine avec le Hamas, qu'on connaît bien aujourd'hui, dont on entend beaucoup parler, mais également dans des pays minoritairement musulmans, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Autriche et d'autres pays. Eh bien, les frères musulmans pourraient, de ce point de vue-là, redevenir un partenaire comme ils ont pu l'être durant la guerre froide. Ce à quoi le président George Bush Jr., et vous avez eu raison de citer cette phrase...
En tout cas, au moins de celle qui est reprise,
voilà, qui est reprise par Jane Kirkpatrick.
Et les Nations Unies.
Voilà, le monde arabe et de manière générale le monde musulman sont les seuls endroits du monde où je me pose sérieusement la question de savoir si donner la liberté de voter au peuple va aboutir à des décisions et des choix rationnels. Et ce qui veut en partie également dire, de son point de vue, des choix qui vont dans l'intérêt américain dans la région. Donc cela illustre, comment dirais-je, une vision américaine extrêmement, enfin toujours j'allais dire en construction, par rapport à la question des frères musulmans. Est-ce que les frères musulmans, de manière générale, est-ce que les islamistes vont jouer le jeu, si par exemple un jour ils devaient arriver au pouvoir, vont-ils jouer le jeu de la démocratie, c'est-à-dire des institutions, c'est-à-dire de l'alternance? Et là, il faut citer une phrase extrêmement célèbre qu'on voit poindre à partir de la fin de la guerre froide, justement, tiens, et un autre grand événement extrêmement tragique, qui caractérise eh bien l'histoire du monde arabe contemporain, qui est l'Algérie des années 90. La guerre civile. Eh bien, comment commence-t-elle? C'est parce qu'un processus électoral a été avorté, un processus électoral qui a vu arriver au pouvoir, ou du moins non pas arriver au pouvoir, mais gagner démocratiquement les forces islamistes du Front islamique du salut. Est-ce que le fils... Les gens du fils, les dirigeants du fils, ils avaient indéniablement gagné démocratiquement en 1991. S'ils avaient eu le pouvoir, l'auraient-ils gardé ou pas? Est-ce qu'il y aurait eu ce principe d'un homme, un vote, une seule fois? Eh bien, ce principe-là, il s'est posé également avec d'autres mouvements islamistes. Et donc, l'idée non seulement qu'il pourrait être, ou la crainte qu'il pourrait être, d'une part violent, mais également antidémocrate, au sens où se servir de la démocratie comme moyen est envisageable, mais pas comme une fin, sans adhérer aux valeurs véritablement de la démocratie, est une autre question qui va se poser pour les Américains envers les islamistes de manière générale, et les frères musulmans en particulier, à partir des années 90.
Zither Harp.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui avec Mohamed Ali Adraoui, professeur des universités à Sorbonne Université, politiste et historien. Nous parlons des États-Unis et les frères musulmans, un siècle d'histoire. C'est d'ailleurs le titre de votre ouvrage, Mohamed Ali Adraoui, où vous retracez toute l'histoire de ces liens, parfois contradictoires, qui oscillent entre méfiance et défiance, et parfois convergence d'intérêts. Tout à l'heure, on a parlé de cette citation de George Bush Jr. reprise par celle qui représente les États-Unis aux Nations Unies. Il y a aussi une autre note d'une ambassadrice au Caire, Madame Patterson.
Oui, qui était ambassadrice des États-Unis au moment du printemps égyptien.
Justement, et là aussi, elle est ambivalente ou elle voit l'intérêt américain d'abord, ce qui est naturel pour elle.
Oui, on a ce phénomène d'oscillation auquel je faisais référence se retrouve encore jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire à l'époque du printemps égyptien et encore aujourd'hui en 2026. Trump est le premier, par exemple, et je reviendrai sur Anne Patterson dans un instant, le président Donald Trump est le premier à officiellement franchir le pas d'une désignation des frères musulmans, pas seulement en Égypte d'ailleurs, en Jordanie également, au Liban, enfin de les labelliser et de les considérer, de les cataloguer comme des mouvements terroristes, donc des mouvements qui sont par définition maintenant infréquentables. Ce sur quoi je suis à peu près certains dont il faut douter, puisque je suis à peu près certain que dans de nombreux pays arabes aujourd'hui, il y a toujours des liens entre les diplomates américains et les personnes issues des frères musulmans, sous une forme ou sous une autre. Eh bien, Anne Patterson, elle est très intéressante, puisqu'elle est la première à devoir historiquement traiter de manière officielle avec les frères musulmans comme mouvement démocratiquement élu, c'est-à-dire porté aux urnes par un processus démocratique légitime à la faveur des printemps arabes et du printemps égyptien en particulier. Mais ça n'empêche qu'elle a également dû
s'accommoder du coup d'État de Abdel Fattah Sissi.
Oui, c'est même dans, alors si on veut entrer dans le débat, elle l'a condamné pour certains, elle s'en est accommodée pour d'autres et elle l'a secrètement légitimé, poussé pour d'autres encore. Bon. Ce sont des choses sur lesquelles on pourra revenir, sachant que la politique américaine, elle est autant, j'allais dire, le produit d'une forme de volonté américaine de remodeler les choses à leur image que de prise en considération des circonstances et des réalités sur le terrain. Eh bien, elle explique que, par exemple, un certain nombre de choses sont allées dans le bon sens. C'est elle qui parle, encore une fois. Pour nous, les Américains, et la diplomatie américaine, et dans le sens de nos intérêts, il y a un certain nombre de choses qu'il faut saluer chez le président Mohamed Morsi. Mohamed Morsi, c'est le président démocratiquement élu, issu du parti de la justice et du développement, qui est arrivé premier au moment du printemps égyptien. Il a respecté un certain nombre de choses en termes d'état de droit, en ayant un certain nombre de critiques aussi, mais il a fait un certain nombre de choses qui peuvent être saluées par les Américains. Il nous amène, il nous pousse parfois également à douter d'une possible coopération entière et parfaite du point de vue américain, puisqu'il a des positions sur Israël, sachant que la question israélienne est très importante, puisque le voisin du sud de l'État d'Israël, qui est le grand allié des États-Unis dans la région, c'est l'Égypte. Un pays qui est en paix avec Israël, le premier pays à avoir signé un traité de paix en 78-79, les accords de Camp David.
Explique le 1,5 milliard d'aide.
Ce qui explique non seulement une aide financière très conséquente, qui est à relativiser aussi parce que la population égyptienne est très importante, c'est le plus grand pays arabe au sens démographique, et c'est également plus qu'une aide financière, c'est une aide stratégique, c'est une aide diplomatique. L'une des raisons pour lesquelles, par exemple, il est difficile de s'opposer au maréchal Sissi lorsqu'il chasse du pouvoir le président Morsi, c'est parce que il se présente comme le garant et le défenseur des intérêts américains dans la région. On le voit encore aujourd'hui dans le cadre du conflit à Gaza depuis maintenant plusieurs années. Eh bien, Anne Patterson, elle explique également, sachant qu'elle aussi, elle n'en était pas à son premier coup d'essai en matière de lien avec les islamistes, puisqu'avant, ça peu de gens le savent, mais avant d'arriver en Égypte, elle était en poste au Pakistan, où elle a été amenée à nouer des liens avec des forces islamiques ou islamistes dans l'un des grands pays musulmans de la région en Asie septentrionale, où elle a dû se faire... J'ai eu l'occasion d'interviewer Madame Patterson il y a quelques années quand j'étais à Washington. Eh bien, elle expliquait que pour elle, l'équivalence entre frères musulmans islamistes et djihadistes ne faisait pas sens, dans la mesure où les frères musulmans étaient un parti qui, un mouvement du moins, qui est un parti aussi au demeurant, qui avait une vision de l'économie, une vision de la constitution, de la légalité, alors on peut la partager ou pas, mais il était hors de question pour elle, et bien, et c'est d'ailleurs la politique du président Barack Obama, qui, influencé par ses conseillers, sur lesquels on pourra revenir si vous le voulez, et bien, était plutôt porteur de cette vision que vous avez qualifiée, que nous aussi chercheurs on qualifie au passage, d'accommodante ou d'accommodationniste, par rapport, ou par opposition plutôt, à une vision beaucoup plus frontale, d'opposition frontale, qui voit dans les frères musulmans d'abord et avant tout un acteur idéologique à même, et bien, de créer de sérieux problèmes pour les intérêts américains dans la région et dans le monde.
Ce qui va apparaître avec l'administration Trump, le 45e président, pas le 47e, dès 2018-2019, où les choses se corsent.
Oui, sachant que la question de considérer ou de possiblement cataloguer et labelliser les frères musulmans comme organisation terroriste se pose déjà depuis les années Trump premier mandat. Ted Cruz, par exemple, est quelqu'un qui pousse depuis maintenant une dizaine d'années afin de ranger les frères musulmans dans cette catégorie d'organisation terroriste. Il faudrait là aussi prendre garde à ne pas seulement appréhender cette question uniquement comme une question américaine. Il faudrait également la réinsérer ou la réinscrire dans des interactions avec d'autres États musulmans aujourd'hui qui sont en guerre ouverte contre les frères musulmans. Il faudrait parler de l'Arabie Saoudite, il faudrait parler de l'Égypte, bien évidemment, des Émirats et d'Israël, qui n'est pas un État majoritairement arabe, mais qui, eh bien, pousse à travers un certain nombre de lobbies et d'entités à Washington, établies à Washington et ailleurs, pour faire de l'islamisme et de l'islam politique, de l'islam radical, aujourd'hui, l'ennemi commun de toutes les nations à la fois occidentales, mais également des alliés arabes, aujourd'hui conservateurs et autoritaires, qui n'ont aucun intérêt. C'est l'intérêt qu'ils partagent tous ensemble, c'est qu'ils n'ont absolument aucune envie de voir les frères musulmans revenir au pouvoir.
Ce qui n'est pas le cas de l'Émirat du Qatar et les États-Unis actuels, l'administration de maintenant, voit ça pas d'un mauvais œil, mais ni d'un bon œil non plus. Est-ce une manière de laisser un fil ou un lien de dialogue et de...
Oui,
et de rencontre.
Alors, ni du Qatar, ni de la Turquie. Il ne faut pas oublier la Turquie non plus, à la tête de laquelle M. Tayyip Erdogan
est un islamiste.
Est un islamiste ou un islamo-nationaliste qui, en tout cas, eh bien, n'a aucune, comment dire, ne manque pas d'appétence pour les thèses des frères musulmans. Même si tout n'est pas, il ne faut pas non plus essentialiser leurs relations, mais par exemple, l'une des ressources sur lesquelles ont pu compter les dirigeants des frères musulmans qui ont dû s'exiler après le coup d'État de 2013, c'est l'aide du Qatar et c'est l'aide de la Turquie. C'est l'une des manières aujourd'hui, l'un des endroits les plus importants pour rencontrer des frères musulmans égyptiens, c'est Doha et Istanbul, il faut le savoir.
Le cas de Doha, on le dit très brièvement, c'est parce qu'un petit émirat parle avec tout le monde et il vaut mieux être bien avec tout le monde pour ne pas avoir des ennuis.
Oui.
Mais ça, c'est aussi sous l'œil plus ou moins probateur de la grande administration américaine.
Oui, et on peut également ajouter les Israéliens, les Européens. Le Qatar, c'est deux choses, c'est à tout le moins deux choses. C'est d'une part la politique de la médiation, la diplomatie de la médiation. Quand on est un pays petit, mais extrêmement riche et ambitieux, eh bien, le fait de s'instituer honest broker, c'est-à-dire l'agent de liaison entre les différents pays, y compris des pays adversaires, voire ennemis dans le monde, c'est une ressource diplomatique clé. Sachant que vous avez des pays aujourd'hui comme l'Arabie Saoudite et même le Sultanat d'Oman bien avant, qui partagent ce genre d'agenda dans leur politique étrangère. Mais dans le cas du Qatar, vous avez également des accointances historiques, doctrinales et idéologiques fortes. Dans les années 60 et 70, les frères musulmans ont trouvé, alors au moment de leur affrontement, j'allais dire, avec le régime nationaliste militaire arabe, égyptien, ont su compter sur un certain nombre de pétromonarchies. Pendant longtemps, l'Arabie Saoudite, avant que l'Arabie Saoudite ne se retourne contre les frères musulmans et inversement. Le Qatar, depuis les années 80-90, l'une des grandes figures des frères musulmans historiques qui est décédé il y a quelques années, Youssef Al-Qardawi, qui a été peut-être la voix frériste la plus influente de l'époque contemporaine, eh bien, était la grande figure religieuse de l'émirat du Qatar depuis les années 80-90.
Et sa fameuse émission de télévision,
La Sharia wal-Hayat, la Sharia et la vie, qui a fait figure de programme télévisé où l'un comptait parmi les programmes télévisés les plus populaires et les plus suivis du monde arabe pendant plusieurs années. Donc ça n'est pas complètement remis en cause aujourd'hui. Quand on sait aujourd'hui le rôle du Qatar dans la négociation, les négociations entre le Hamas, qui est la branche palestinienne des frères musulmans, qui n'est pas que ça, mais qui est historiquement la branche palestinienne des frères musulmans en terre de Palestine, et les autorités israéliennes, le Qatar, jouent un rôle de premier plan. C'est une des raisons pour lesquelles ces mêmes représentants des frères musulmans palestiniens au Qatar ont été pris pour cible par l'aviation militaire israélienne il y a quelques mois, à Doha.
Mohamed Ali Adraoui, nous arrivons au terme de l'émission. Vous pourriez la conclure avec cette décision donc de Donald Trump d'inscrire sur la liste des mouvements terroristes les frères musulmans. Y aurait-il, c'est pas pour faire de la politique fiction, une possibilité de garder quand même des liens, parce que les mouvements sont les plus dangereux, c'est quand ils sont dans la clandestinité et en travaillant dans le secret.
Alors, je n'ai absolument aucun doute sur le fait qu'un certain nombre de canaux vont être préservés entre les autorités américaines et un certain nombre de représentants des frères musulmans, qu'ils soient égyptiens ou venant d'autres pays.
Si tant est qu'ils restent influents ou qu'ils demeurent avec une prégnance doctrinale, ce qui n'est peut-être pas le cas.
Ils sont eux-mêmes en crise, que ce soit au niveau égyptien ou au niveau plus global, ils sont eux-mêmes aujourd'hui dans une situation. Vous savez, dans l'histoire des frères musulmans, vous avez une notion clé. Alors, il y a beaucoup de notions clés, on ne peut pas toutes les définir et en parler ce matin, mais l'une des grandes notions qui caractérise l'histoire et la vision qu'ils ont de leur histoire quand on parle des frères musulmans, c'est la notion de mihna. D'épreuves, enfin de grandes épreuves. Eh bien, lorsqu'on parlait de Seyyed mais du fait qu'il était emprisonné puis pendu par Nasser dans les années 60, donnant lieu à une véritable persécution, hein, pour le dire de manière très claire, des frères musulmans par le régime égyptien de l'époque, eh bien, ça fait déjà partie des choses qui entrent sous le vocable de mihna, de grandes épreuves que les frères musulmans ont dû traverser au cours de leur histoire. Dans les années 60, 70, après l'assassinat de Hassan al-Banna, la condamnation à mort de Qutb, eh bien, le coup d'État et la période post-2013 sont également aujourd'hui interprétées et conceptualisées comme une épreuve, une autre grande épreuve que la confrérie doit affronter dans son histoire. Eh bien, ces épreuves ont en général accouché de différentes reconfigurations idéologiques. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de personnes à propos des frères musulmans qui expliquent que la démocratisation n'est pas allée suffisamment loin. D'autres, au contraire, pensent que face à des régimes qui ne veulent absolument pas et qui ne voudront jamais entendre parler d'ouverture démocratique, il n'y a pas lieu aujourd'hui de jouer le jeu des institutions. Donc ça, c'est une des grandes tensions qui aujourd'hui caractérise le travail et la pensée des frères musulmans. Ce n'est pas le seul, mais gageons, Raleb, que cette question-là va encore aujourd'hui avoir une influence, et également pour les années à venir, sur la vision que les Occidentaux et les Américains en particulier ont et continueront d'avoir à propos des frères musulmans.
Auquel cas vous viendriez nous en parler aussi, si vous voulez bien.
Avec un grand plaisir.
Cher Mohamed Ali Adraoui, chers amis auditeurs, c'était question d'islam, et nous avons parlé aujourd'hui des liens particulièrement entre ce grand État occidental, Amérique états-unienne, celle de Donald Trump en ce moment, et les frères musulmans qui viennent d'être inscrits sur la liste des mouvements terroristes. Vous retrouverez l'émission, comme toutes celles de la chaîne, sur le site de France Culture, et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de sang a été assurée aujourd'hui par Pierrick Charles et la réalisation est assumée par Fanny Constant.